Je vous invite à la lecture d'un passage de l'évangile de Marc, au chapitre 6. Marc 6. Au verset 30, les apôtres revinrent auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Les gens qui arrivaient et s'en allaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment ». Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé, mais beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Ils accoururent alors de toutes les villes et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de compassion pour ces gens, parce qu'ils ressemblaient à un troupeau qui n'a pas de berger. Suit le récit de l'une des multiplications des pains, et puis à la fin, au verset 45, le passage qui fera l'objet de notre méditation. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après s'être séparé d'eux, il monta sur une colline pour prier. Quand la nuit vint, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau et il allait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris, car tous le voyaient et étaient bouleversés par la peur. Mais aussitôt il leur parla. « Prenez courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Alors ce récit, effectivement, assez classique. Mais je crois que ça vaut la peine d'y revenir ce matin. Après l'étonnante multiplication des pains, miracle prodigieux au cours duquel Jésus vient de nourrir une multitude, il reste sur le rivage et renvoie cette foule enthousiaste. À regret d'ailleurs, le peuple se disperse et Jésus demeurait seul gravi les pentes de la colline qui surplombe le lac de Galilée. C'est l'heure où la nature s'endort, crépuscule, un dernier sourire, le ciel et la terre se colorent là-bas de teintes magnifiques. Les premières étoiles paraissent aussi dans le ciel et les fleurs se sont fermées, parce qu'il y en a des fleurs là-bas. Elles se sont fermées pour dormir et les oiseaux, avec ces petits cris étouffés, ont caché leur tête sous l'aile. On n'entend plus rien. Sauf le vent qui souffle dans les arbres et le clapotis lointain des vagues qui commencent déjà à s'agiter. Et comme au premier jour du monde, le Fils de Dieu, par lequel ce monde a été créé, c'est par le Fils que Dieu créa le monde, Hébreux 1, verset 2. Ce Fils contemple cette création, mais sa pensée reste chargée du poids quotidien, du contact avec ces hommes et ces femmes dont il connaît le cœur changeant, le cœur versatile, mais aussi les blessures. Il a partagé leurs souffrances, leurs attentes, les gens versatiles. Et pourtant, en les voyant, nous avons lu au verset 24, son cœur fut ému de compassion pour ces gens. Quel poids! C'est la raison pour laquelle maintenant, il éprouve le besoin d'être enfin seul, seul pour se ressourcer auprès de Dieu, dans la communion avec son Père. Et arrivé au sommet de la colline, il se retourne et aux dernières lueurs du couchant, il aperçoit comme un point noir sur le lac cette barque où sont ses disciples. Il les suit du regard, puis s'adressant à Dieu, son Père, il prie. Trois points seront évoqués. Jésus se met à l'écart, non pour fuir, mais pour prier. Jésus monte sur une colline qui domine le lac. Jésus veut rester seul. Il juge ce retrait indispensable à son équilibre face à sa vie active et combien lui qui vit des relations fortes, multiples, à longueur de journée, il considère essentiel comme prioritaire pour l'accomplissement de sa mission, ce retrait, de passer du temps seul avec son Père. Et cette page de l'Évangile résonne de toute son actualité. Lorsque, de bien des manières, nous nous mettons à l'écart, que cherchons-nous en fait, nous? Qu'espérons-nous? Échapper aux contraintes, à l'usure de notre vie quotidienne, quelquefois bien banale ou bien chargée, libérer notre vie sclérosée par des habitudes quotidiennes, des automatismes, des répétitions, à quoi bon, plutôt désabusé. Quelquefois, c'est bien cette isolation ou cet isolement que nous cherchons, mais je crois que nous recherchons autre chose de plus profond, l'aspiration à se reconstruire, à reconstruire sa vie intérieure. Alors dès lors, la solitude devient nécessaire pour nous couper des influences pesantes qu'exercent sur nous notre environnement bruyant. Notre civilisation, qu'elle soit occidentale ou autre, ignore le silence. En dehors de certains lieux de culte, ici, de certains hôpitaux, de certains cimetières. Sinon, le silence est absent. Partout, le bruit est roi. Alors, il sert à la fois à faire taire, en fait, toute vie profonde et à installer l'air du temps. Cette tendance, le bruit, cette tendance. Et à force d'écouter le bruit, on cesse d'être soi-même, on se conforme au modèle proposé, on perd son identité. Alors pour se retrouver soi-même, pour se libérer de cette contrainte, la tentation est grande pour quelques-uns de faire le choix d'un autre enfermement. Et certains vont au Mont Athos, dans les monastères, ou alors dans quelque ashram à Katmandou. C'est le choix de certains pour retrouver le silence. Mais ce n'est pas ce que Jésus entend ici. Ce n'est pas ce qu'il demande à ses disciples et qu'il souhaite de leur part. Et dans sa prière sacerdotale que vous retrouverez en Jean 17, Jésus est clair. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Notre place est dans le monde. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé. Notre place, notre vocation, notre appel sont dans le monde. Et alors deux expressions sur lesquelles on reviendra certainement prochainement. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel du monde. Le monde serait bien fade sans la présence du sel de la terre. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où le témoignage chrétien s'affaiblit, il perd de sa saveur. C'est général. La désaffection de ce qui est le bien devient courante, préoccupante. À quoi bon ? On entend cela tous les jours. Plutôt désabuser nos contemporains, et malheureusement parmi eux beaucoup de jeunes, s'installent dans une espèce de béni-oui-oui accommodant, désabusé, démotivé. Être le sel de la terre, c'est relever la saveur de la vie. Être le sel, c'est encore savoir protester. Et se distinguer de la masse pour affirmer contre l'avis de la majorité que l'Évangile est et demeure la seule épice qui durablement donne du saveur à la vie. Durablement. Vous êtes aussi la lumière du monde. Matthieu 5. Comment cette lumière pourrait-elle parvenir au monde si nous nous retirons, si nous nous tenons à l'écart entre nous? Alors l'activisme effréné, pour la plupart, auquel les hommes, jeunes et plus âgés, sont souvent contraints par les exigences d'une civilisation qui est telle, la nôtre, combien cet activisme les empêche de percevoir la moindre lumière véritable, celle dont ils auraient tant besoin. Alors après ces constats, pour nous décontracter un petit peu, je parle pour moi, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée, mais il y a pas mal de temps. L'histoire de ce roi qui avait trois fils remarquables. Et sentant ses forces diminuer, le moment était venu pour lui de choisir l'un d'eux pour lui succéder. Il décida alors de les soumettre tous les trois au même défi, et celui qui réussira le mieux à le relever sera roi. Après sa mort, l'aîné était un homme solide, infatigable, travailleur. Il s'occupait des forêts du royaume et passait tout son temps avec les bûcherons. Le deuxième gérait les terres du roi et faisait fructifier à merveille les champs, les jardins pour nourrir toute la cour. Le troisième passait pour être un poète. Il aimait les livres, il aimait la musique, il aimait la peinture. Et parcourant le royaume, il avait un mot aimable pour chacun. Et de retour chez lui, il aimait à passer de longues heures à méditer. Le roi les appela tous les trois et les conduisit dans trois salles du château, toutes identiques et vides. Grande salle. Celui qui d'entre vous, en une journée, remplira l'une de ces salles avec ce qui sera le plus utile pour le royaume, me succédera. Vous avez 3 jours pour vous préparer. Alors l'aîné galopa à travers les forêts, mobilisant ses amis les bûcherons. Tout le monde lui donne un coup de main. Le deuxième courut d'une ferme à l'autre, dans tout le pays. Le troisième s'assit au pied d'un arbre, son regard levé vers les nuages. Le jour de l'épreuve, en ville, tous les bûcherons formaient une chaîne allant du fond des forêts jusqu'à la première salle. Et l'aîné lui-même empila les bûches dans la salle du château. Et le second, de tous les coins du royaume, arrivèrent des chargements de foin, de paille. Le deuxième fils était content, aucun fermier ne manquait à l'appel, les uns avec des chariots pleins de légumes et autres, et les autres poussant des brouettes remplies de céréales, de fruits. Mais où était passé le plus jeune? On l'avait vu discuter avec un pêcheur au bord de la rivière, jouer avec des enfants sur la place du village, entrer dans une maison, la maison d'un malade. À la fin de la journée, le roi se présenta en personne pour visiter les trois salles. La première, malgré les efforts des bûcherons, n'était remplie qu'à moitié. Et l'aîné des fils partit épuisé, déçu. Dans la deuxième salle, il y avait du foin pour nourrir les chevaux pendant tout un hiver et des fruits en abondance, mais il restait beaucoup de place. Le deuxième fils se détourna, découragé. On vit arriver le troisième fils, seul, juste après le coucher du soleil. Il entra dans la salle, plongé dans l'obscurité. Il tira de son sac une bougie, l'alluma et la posa sur le sol au milieu de la grande pièce. La flamme, minuscule, tout d'abord, vacilla, puis grandit de plus en plus, et en un instant, la salle fut remplie de lumière. C'est lui qui monta sur le trône. Vous êtes la lumière du monde. Alors je me dis la chose suivante. C'est vrai, le matin je m'éveille, comme ce matin, difficilement, enfin peu importe. La journée s'annonce chargée de ses gestes, celui-là, d'autres, ses gestes habituels ou exceptionnels, mais cette journée m'attend et je l'aborde prête à répondre à ses exigences. Mais voici l'autre aspect de ma journée. Au matin, Dieu me réveille. Dieu me montre une journée neuve, impossible à prévoir. Dieu me prend par la main et me conduit vers cet inconnu, c'est un chantier dont il est dit qu'il l'a préparé pour moi. Il m'amène vers tous ces travaux qu'il me propose. Et là, avec Dieu, tout peut devenir lumière. Lumière, la tâche à laquelle Dieu veut que je m'engage. Lumière de l'épreuve, où il veut me rendre plus fort. Lumière de la lutte, que Dieu veut que je livre. Lumière, cette présence de Dieu dans la journée qui s'ouvre. Non pas ma lumière, mais sa lumière qui transparaît au travers de ma vie. Jésus, ici, veut être seul. Mais ce n'est pas pour se débarrasser de la foule qui l'accapare, de ses disciples qui n'y comprennent rien, à le leur dire d'ailleurs. Il se retire seul, c'est pour prier. C'est notre deuxième point, plus rapide. Alors c'est vrai que la prière est le sujet bateau de bien des exhortations. Elles commencent par là, elles ont commencé tout à l'heure, elles finissent par là. Mais qu'il est difficile de parler de la prière. La prière est comme la foi. Elle échappe à la raison. Il nous est difficile d'imaginer, et c'est un peu ce que nous essayons de faire, les formes que revêt la prière de Jésus face à face avec le Père, allant effectivement de la louange à la requête, de l'action de grâce à l'intercession, des larmes à l'adoration. Durant sa vie terrestre, nous écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça, dit l'auteur, à cause de sa soumission, de son obéissance. Non pas que ta volonté se fasse, que ma volonté se fasse, mais la tienne, dira-t-il trois fois, avec des larmes à Gethsémané. Alors c'est bien sûr, Jésus priait pour lui-même, parce qu'il avait besoin que Dieu le renouvelle, pour qu'il ait cette force d'aller jusqu'au bout, parce qu'il lui en fallait autant pour vivre que pour mourir. Il priait pour cette foule, qui tout à l'heure était prête à l'acclamer parce qu'il l'avait nourri et qui demain, et il le sait, sera prête à le lapider. Et si le miracle ne se renouvelle pas, mais c'est pour cette foule qu'il est venu. C'est pour cette foule qu'il est venu pour la sauver et la sortir de sa misère. Priez aussi pour les 12 qu'il voyait là dans cette barque, malgré la nuit. Luttez contre les vents qui étaient montés, des vents contraires. Il les voyait déjà sur une autre mer, autrement plus vaste, affrontant des périls bien plus grands. Mais ses disciples sont l'espoir du monde. Cette barque porte l'Église. Et tandis qu'elle voguait péniblement, Jésus prie. Il prie pour qu'elle arrive au port et il sera exaucé. Mais la prière de Jésus, si elle est demande, intercession, elle est aussi contemplation, comme ce fut l'expérience de cet homme. J'ai encore le temps de vous la raconter, cet homme qui raconte sa nuit passée à scruter le ciel étoilé. Oh, c'était un soir comme nous le connaissons, un soir de printemps que nous connaîtrons bientôt, un de ces soirs après une rude journée. Et les fardeaux ont été pesants pour lui. Alors il sort sur le pas de la maison, ça vous arrive peut-être aussi, et il veut respirer un peu l'air. Alors peu à peu, son regard se lève vers le ciel. Et Dieu semble lui dire, regarde, regarde ce monde que j'ai créé. Ils sont tous sortis de mes mains. Et je les conduis, ils poursuivent leur course selon mes projets. Et il en est de même pour toi. Je prépare à l'avance ta route, je t'accompagne et je réalise le plan que j'ai conçu pour ta vie. Tous ces mondes passeront, mais toi, tu ne passeras pas. Je t'ai créé pour l'immortalité. Nous a été rappelé encore jeudi dernier. Prends courage. Sois fidèle dans les petites choses que je t'ai confiées, n'ambitionne rien d'autre. Devant moi, rien n'est grand, lui dit Dieu, mais tout est important. La seule chose est grande, c'est d'accomplir la tâche par amour, ta tâche par amour pour moi. Je t'ai donné un cœur pour que tu saches que je t'aime et pour que ton amour réponde au mien. Ainsi raconte cet homme, ainsi m'a parlé la voix de mon Dieu, j'étais apaisé, reposé, armé pour le combat du lendemain, parce que Dieu m'a parlé comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Prendre le temps de ce tête-à-tête avec Dieu dans la prière devient un souffle, comme un second souffle qui rythme notre vie. C'est possible, contempler Dieu à nouveau. Même si nous avons un moment, cessez de le voir, parce que nos yeux s'étaient voilés par le doute ou la présence de larmes. Quand notre regard s'était attaché davantage aux hommes qu'à Dieu, recherchez ces instants uniques où Dieu retrempe nos caractères, nous redresse peut-être, calme nos anxiétés, nous reprend si nécessaire, nous console. Moment privilégié où le ciel est ouvert, se trouver bien sur la montagne et ne rien faire de visible. Attitude si contraire à nos tempéraments de perpétuels agités. Nous craignons de ne pas faire assez au lieu d'être là devant Dieu, à admirer qui il est et ce qu'il fait, lui. Mais il nous faut redescendre de ces hauteurs, car la prière doit s'élever dans une autre dimension, l'intercession pour les autres. L'intercession pour les autres, pour ceux que nous aimons, bien sûr, un peu facile, enfin, pour nos proches, nos frères et sœurs, nos sœurs et frères, et aussi pour ceux que nous aimons moins, ou, croyons-nous, qui ne nous aiment pas. Prier pour les autres, c'est déjà leur faire de la place dans nos pensées, notre cœur. Prier pour les autres, c'est regarder nos propres soucis à la lumière de ceux que portent quelques-uns des autres, leur donner à nos soucis leur réelle importance, les relativiser. Prier pour les autres, c'est réaliser que nos destinées dépendent étroitement de celles des autres. Que nous sommes liés les uns aux autres, ici. La prière, l'intercession nous pousse à redécouvrir cette solidarité sans laquelle la survie du groupe, je dirais de l'Église, serait impossible. Mais prenons garde, parce que nous avons tendance à prendre la prière comme une liste de courses que nous voulons confier à Dieu parce que nous n'avons pas envie de les faire. Non, ce n'est pas ça. Rappelez-vous, la prière et l'action. Réphidim, relisez Exode 17. Moïse en haut, les bras levés, il priait, on le soutenait d'ailleurs, parce que quand les bras s'abaissaient, ça n'allait plus. Et Josué en bas dans la plaine, qui combat et qui remporte la victoire. Lui agit. Moïse crie. Et cependant, Dieu peut très bien intervenir seul, sans nos prières, dans le cœur et la vie de ceux pour lesquels nous prions, et de façon quelquefois extrêmement subtile, mystérieuse, inattendue, d'une manière que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, ce qui prouve bien que nous ne contrôlons pas tout, et heureusement. C'est ainsi que la prière d'intercession peut, à notre insu, transformer des situations d'échec en victoire. Il nous reste à évoquer deux autres prières en conclusion. Bientôt Jésus va gravir, nous l'avons aussi chanté tout à l'heure, les pentes d'une autre colline, non pas de Galilée mais de Judée. Vous avez remarqué qu'en parcourant les sentiers de nos montagnes, il y a des croix un peu partout. Les unes rappellent effectivement quelques drames, mais les autres sont la plupart du temps dressées pour le souvenir de cette croix qui fut dressée à Golgotha il y a 2000 ans. Et ce matin, l'Évangile nous invite une fois de plus à porter nos regards vers cette colline située près de Jérusalem. Elle nous concerne tous, parce qu'elle est comme la prière, le point de rencontre entre nos peines, notre révolte et le pardon, l'amour et les réponses de Dieu. Jésus monte à Golgotha avec nos fautes, nos murmures, notre souffrance, et Dieu laisse mourir son Fils sur cette croix pour nous donner la vie. Et les bras étendus du Fils, ce sont les bras ouverts du Père. À cause de la croix, nous pouvons vous dire à tous et nous redire à nous, sans exception, que Dieu nous aime, que Dieu vous aime. Connaissez-vous un endroit où cet amour se montre le mieux? Oh, c'est vrai, ce n'est pas d'abord l'amour, ce n'est pas d'abord la colère de Dieu. Oh oui, elle éclate à la croix, oh combien, mais c'est plus encore son amour pour nous, comme nulle part ailleurs, ce châtiment. On a vu tout à l'heure, tombe sur Jésus pour lequel, pour que moi, je sois épargné. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est le message de la croix dressée sur la colline. Elle parle de justice et de jugement, mais mieux encore d'amour et de pardon. Avez-vous remarqué que parmi les sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix, il y a deux prières? Dans la première, il intercède pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23. Si à bien des reprises, il avait prié pour ses amis, s'il avait demandé aux siens d'aimer leurs ennemis, de prier pour ceux qui les persécuteront, coup sûr, ici sur la croix, c'est Jésus qui implore le pardon pour ses ennemis, comme s'il ne pouvait pas quitter le monde sans s'acquitter de cette requête, comme si cette requête était prioritaire, impérieuse, démarche entre toutes. Il ne faut pas marquer, sauf à le regretter si elle arrive trop tard. Pardonnez tant qu'il est temps. Et j'en connais qui n'ont pas pris le temps de pardonner, et il était trop tard. Et c'est dramatique. Pardon. Pardonnez pour recevoir en retour le pardon pour les autres, pour soi-même. Mais ce n'est pas l'ultime parole de Jésus. Ces derniers mots sont encore une prière. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La parole s'exprime une foi intacte, une confiance totale. Elles sont comme le prolongement de ces nuits passées avec la communion de son Père. Jésus a la certitude que sa destinée ne peut être entre de meilleures mains que dans celle de son Père. Il en est de même pour nous. Notre vie, qui ressemble tellement à cette barque des disciples sur les lacs, ballottée à la merci de la tempête, nous pouvons la confier à celui qu'aucune vague jamais ne submergera. Il nous a laissés seuls, mais ce n'est qu'une apparence. S'il intercède pour nous auprès du Père, il nous suit du regard sur la mer troublée. Et dans les brumes grises qui précèdent l'horreur, nous l'entendons, à l'heure où justement elle est froide, l'eau. Nous verrons comme autrefois les disciples, nous verrons Jésus s'avancer à son heure, les mains tendues vers nous. Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta dans la barque auprès d'eux, et aussitôt le vent tomba. Si celui qui vivait dans une communion constante avec son Père s'éloigne des bruits du monde pour entendre de plus près la voix de l'Esprit, on ne peut douter que nous aussi nous avons besoin de silence avec Dieu. Comment trouver le temps ? Bien, nous en avons peut-être plus que nous ne le savons, à condition de le rechercher. Jésus, au cours de ces journées plus harassantes que les nôtres, a su trouver le temps. Acceptons au moins d'essayer, aujourd'hui. Aujourd'hui, demain. Quel bel objectif. Consacrer plus de temps à ce tête-à-tête avec Dieu. C'est ma prière pour nous tous.